Alors, on est en plein milieu, en réalité, d'une discussion entre Hachem et Moshe. Hachem a envoyé Moshe Rabbeinu, il l'a envoyé chez Paro, pour lui dire Let my people go. Ça veut dire OK, renvoie mon peuple. Laisse mon peuple partir. Laisse mon peuple qui, tes esclaves, là, c'est mon peuple. Laisse-les partir. Alors, on commençait. Paro a dit, Hachem, je connais pas. Et je laisserai pas partir les Bnei Israël. Et Paro, à la suite de cette intervention-là, il a durci les conditions de vie ou de survie, je sais pas, d'Ebné Israël en Égypte. Et à ce moment-là, Moshe a fait un procès à Hachem. Il lui a dit, comment c'est possible? Tu m'as envoyé chez Paro pour lui, a priori, pour le C'est pour le bien d'Ebné Israël. Et la résultante de mon intervention, c'est que ça a aggravé la situation. C'est insupportable. Pourquoi est-ce que tu m'as envoyé? Et tu ne les as pas sauvés. Ils sont encore pires, dans un état pire que celui qui était le leur avant que je n'intervienne. Ça, c'est le procès que Moshe a fait à Hachem. Et là, maintenant, nous, on en est là. C'est la réponse d'Hachem. Et la réponse, elle est d'abord étrange, parce que le premier verset, c'est Vaïdaber Elohim El Moshe, Vayomer Elam Ani Hachem. C'est Elohim qui parle à Moshe et il lui dit, je suis Hachem. C'est-à-dire, c'est Elohim, qui est traditionnellement un nom divin qui indique la rigueur, et il lui dit, je suis, tétragramme, le nom divin qui traditionnellement indique le rachamim, bon, je traduis le rachamim par tendresse parce que j'aime pas tellement le mot miséricorde, je trouve. Ça sonne pas tellement juif dans ma tête. Je sais, c'est peut-être à tort, mais en tout cas, je dis tendresse, quoi. Ça veut dire rachamim pour moi. Alors, c'est un passouk assez difficile à comprendre. Et on va dire, et Hachem dit à, il dit à Moshe, les ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, j'ai interagi avec eux et je ne me suis jamais fait connaître par eux sous ce nom de tétragramme. Eux, ils m'ont connu sous un autre nom qui s'appelle Kel Shakai. C'est un autre nom. Et en gros, le nom, Shem Shakai, on va en reparler, mais c'est un nom divin qui fait des promesses. Les noms divins, ce n'est pas des noms d'Hachem. Hachem n'a pas de nom. Mais c'est des indications qui nous sont données pour savoir comment Hachem, à ce moment-là, gouverne le monde. Il gouverne selon la rigueur, selon la tendresse, selon la pitié, etc. Bon. Toutes sortes de. Et Kel Shakai, c'est deux noms en réalité, à la fois Kel et Shakai sont deux noms dont on va parler plus loin, mais qui indiquent des promesses, mais il n'y a pas la. Dans ce nom-là, ça ne dit pas que Hachem va réalisé, enfin, il dit qu'il promet, mais on ne voit pas la réalisation des promesses. Et donc, Hachem dit à Moshe, les Avot, les patriarches, je me suis révélé à eux comme avec mon nom El Shaddai, et ils n'ont jamais, jamais, ils m'ont fait des reproches. Ils n'ont jamais vu le début du commencement de la réalisation des promesses que je leur ai faites. Et pourtant, ils n'ont rien dit. Et toi, je t'ai dit qu'on était dans la phase de réalisation des promesses, et parce que ça ne se passe pas exactement comme toi tu penses que ça devrait se passer, tu me fais un procès? C'est désastreux. Chazal disent, Chaval al de'avdin. C'est malheureux que je doive travailler avec toi, que je ne puisse pas travailler avec eux. Et comme vous savez, mon cher Rabbeinu qui a résisté pendant toute une semaine, déjà avant de. Et qui. Résistance qui lui a coûté très cher. Il a perdu en tout cas le droit d'entrer en Eretz Israël. Hachem tout de suite lui a dit, tu n'entreras pas en Eretz Israël. Par la suite, Moshe a pensé que comme Hachem a très souvent pardonné au Bnei Israël, que dans la foulée, il aurait pardonné à lui aussi. Mais visiblement, Hachem ne lui a pas pardonné. Et deuxièmement, il aurait dû être Kohen Gadol aussi. Et Hachem lui a dit, c'est ton frère qui sera le Kohen Gadol. Et ils ont aussi été convenus aussi que, comme Moshe a dit qu'il ne pouvait pas parler. On ne sait pas très bien ce que veut dire Aral Svataim, mais bon, c'est. Il a une orla des lèvres. Bon, les gens disent qu'ils sont cousus, il y en a d'autres qui disent qu'ils bégayent, enfin, bref, on n'en sait rien en vérité. Mais en tout cas, il a des difficultés à parler. Et je crois même qu'il a surtout des difficultés à parler avec quelqu'un comme Paro. Alors Hachem dit, ok, alors c'est Aaron qui va parler. Toi, tu seras l'Élohim de Aaron et Aaron sera ton prophète. C'est lui qui va parler. On pourrait imaginer, par exemple, que Moshe, étant donné qu'il va parler avec Hachem, en quelque sorte, cette bouche-là, elle peut pas en même temps parler. C'est pas cette bouche-là, elle va pas parler avec Paro, avec un idolâtre comme celui-là, etc. À partir du moment où il est dans la phase où il va parler avec Hachem, avant que dans sa vie antérieure, s'il était roi à Couche ou quoi qu'il ait fait avant, ou quand il était chez Yitro, etc., c'est sûr qu'il a parlé avec n'importe qui, a priori. Mais maintenant que Hachem lui a confié une mission, peut-être qu'il ne peut plus parler, comme si. La fréquence dans laquelle Moshe parle, c'est une fréquence qui n'est pas audible par Paro, par exemple. Ouais. Par contre, c'est audible par Aaron, et Aaron, lui, parle normalement, il peut parler, je te remercie. Et Aaron, il peut parler normalement avec Paro. OK. Et donc, du coup, Hachem va envoyer Moshe et Aaron reparler avec Paro. Entre-temps, il a dit à Moshe d'aller parler au Bnei Israël. Moshe avait dit, bon, ils vont pas me croire, ils vont pas me faire confiance, etc. On va voir ça aussi. Et puis après, c'est le couple Aaron et Moshe vont se déplacer toujours ensemble. Toujours Aaron qui va parler. En fait, c'est Moshe qui parle. Par l'organe, par la bouche d'Aaron. Alors, je voudrais voir avec vous un enseignement de Rabbi David Feinstein, le fils aîné de Moshe Feinstein, Zichrono Livracha, les deux, Zichronam Livracha, il apprend les choses un peu différemment de ce qu'on entend généralement. Alors, sur la première question de ces deux noms divins, Elohim et Hachem. Donc, il fait remarquer que le passouk commence par Elohim et ensuite il dit Ani Hachem. Alors, il explique, c'est quoi enfin, comment on peut expliquer ce verset-là? Alors il dit, le pshat, c'est que lui, il utilise l'expression Ribono shel Olam, le maître du monde. C'est comme ça que on parlait en Europe de l'Est, on utilisait beaucoup cette expression. Enfin, ma mère aussi, elle parlait comme ça. Ribono shel Olam, c'était, on disait pas Hachem ou autre chose, le Ribono shel Olam, le maître du monde. Alors lui, il parle comme ça, ils l'ont écrit à chaque fois Ribono shel Olam. Il dit que le Ribono shel Olam a dit à Moshe, tu viens avec moi avec un argument. Lama reota namazé, pourquoi tu me dis, pourquoi est-ce que tu as fait du mal à ce peuple? Comme si tu avais été choisi pour être l'avocat du clan d'Israël. Mais si, effectivement, tu te considères comme l'avocat du clan d'Israël, tu devrais savoir qu'en vérité, c'est sûrement selon la justice que j'ai agi. Tu dois savoir que j'agis selon le tzedek, selon la justice. Et par conséquent, tu dois penser qu'effectivement, cette aggravation de la situation pour l'Ebné Israël l'ont mérité. Première chose, ça veut dire, c'est pas que, bon, ça va. Ça n'est pas que c'est injuste qu'il leur arrive quelque chose là, ce genre-là. Et tu demandes, aussi, Lamazé Shalachtani, pourquoi est-ce que tu m'as envoyé? Alors, je ne t'ai pas envoyé pour ça. Je t'ai envoyé, effectivement, pour faire sortir l'Ebné Israël d'Égypte et pour, entre-temps, alléger le chiboud, alléger l'esclavage. Et tout à coup, il y a le contraire de ce pourquoi je t'ai envoyé. Alors, à ça, je te réponds. Ouais, donc, avec ce verset de Vaïdaber Elohim El Moshe Vemerelav Ani Hashem, c'est-à-dire Elohim qui est le Dayan. Elohim est le juge, c'est la rigueur. Il parle, c'est lui en tant que Dayan qui parle à Moshe. Et il lui dit, la Dayanut Sheli, le fait que je sois un juge, c'est, je ne suis pas un juge comme les juges de chair et de sang. Il dit que les juges de chair et de sang, ils ne vivent pas éternellement. Donc, ils doivent terminer leur job, a priori de leur vivant. Et par conséquent, quand il juge et qu'il condamne quelqu'un à mort ou à des coups, il y a une halakha qui tient compte justement de cette finitude de la vie des juges, qui est qu'on doit exécuter le onesh, la sanction, immédiatement. Il y a un issur lehalin et adin. Il y a un issour de ne pas appliquer la sanction et de laisser passer toute une nuit avant l'application. En d'autres termes, entre autres, le condamné, il n'a pas été condamné à une nuit d'angoisse à la veille de sa condamnation. Il a été condamné à la mort, c'est tout. Il n'a pas été condamné à une quelconque souffrance. La Gemara dans Sanhedrin, elle discute. si dans la peine de ce qu'il a, ce qu'il a, c'est qu'on jette, en théorie, je ne pense pas exactement comme ça, mais disons que la lapidation, c'est qu'on jette des pierres. C'est effectivement des pierres qu'on jette, mais c'est tout à la fin d'un processus où c'est sûr que la personne, elle est déjà 3 fois morte quand on lui jette des pierres, mais bon. Mais disons, dans la peine de ce qu'il a, la peine qu'on appelle lapidation, c'est la rencontre du corps humain avec la pierre. C'est pas obligatoirement que la pierre vient, mais c'est peut-être lui qui est précipité d'abord. Lui-même, il est précipité sur une dalle, etc., sur laquelle normalement il meurt. Sinon, on pose sur lui une énorme pierre, etc., qui remord. Si jamais il a eu des velléités de survivre à sa chute, il va mourir à ce moment-là, etc. Et tout à la fin, hein, les Édimes doivent jeter une pierre. En tout cas, on n'a pas le droit de. Là, ce que je voulais dire, c'est que dans la Gemara, on se demande, est-ce qu'on lapide les gens nus ou est-ce qu'on leur laisse une chemise? Pourquoi? Parce que ils sont condamnés à la lapidation. Et si on leur laisse un vêtement, ben ils vont mourir un peu plus lentement. Mais d'un autre côté, c'est une humiliation que d'être exposé à la vue. Donc on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire. Et finalement, la morale va dire que l'homme, il est lapidé nu, mais la femme, non. Pour d'autres raisons, d'ailleurs, en fait. Donc, on ne peut pas laisser la chose jusqu'au lendemain. Ils doivent exécuter la sentence. Mais si les Dayanim vivaient éternellement, ben, ils n'ont pas de raison de se précipiter pour faire immédiatement la sentence, parce que de toute manière, par exemple, si c'est mon cas, dit Hachem, bon, le bonhomme, il va pas s'échapper, je peux le rattraper tout le temps. Et donc, pour cette raison, le Sanhédrin, pour cette même raison, donc le Sanhédrin lui-même, il avait l'obligation d'exécuter les sentences. Parce que on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Peut-être demain, il y aura un autre pouvoir qui va empêcher l'exécution de la sentence ou quelque chose. Et donc, on ne sait pas si demain ce sera possible. Donc, il faut faire tout de suite. Mais moi, je maîtrise le temps, puisque c'est moi qui fais exister les choses. Je suis éternel. Donc, moi, j'ai pas de raison de me dépêcher.
Par rapport à la fusée.
Quoi?
Vous avez dit juste avant, c'était par rapport à la fusée qu'il fallait exécuter rapidement. On ne voulait pas le.
Oui, c'est aussi comme ça, mais d'un autre côté, le Dayan, il n'est pas pressé. Parce que peut-être que ça peut être réenvisagé, etc. Normalement, on ne peut pas facilement, mais peut-être que quelqu'un viendra et va remettre en question le jugement. Bon, alors d'un autre côté, ce qu'Hachem a fait, c'est ça retarde la Géoula. Ça retarde la libération des Bnei Israël. Alors pourquoi retarder la Géoula? Donc il faut qu'il y ait une raison pour retarder la Géoula. Bon, c'est-à-dire, on dit on n'est pas pressé, mais d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas tout de suite? Il y a une raison. Mais peut-être que il y avait quelque chose qu'on devait encore donner, une espèce de récompense à Paro. Pourquoi? Parce que il a, par exemple, Paro, il a rapproché Yosef. Il aurait pu utiliser Yosef pendant la journée pour des raisons de gestion économique du pays et tous les soirs le renvoyer en prison. C'était possible. Il ne l'a pas fait. Et d'autre part, dans la Gemara, dans la Torah, dans Parchat Ki Tetzé, c'est marqué Lot Ta'ev Mitzri, Ki Ger Haïta Be'artso. C'est-à-dire, tu ne vas pas faire souffrir, disons, l'Égyptien, parce que tu as été étranger dans son pays. Et Rashi explique là-bas, Ve'afalpi Shezarku Zochorechem Layor, et bien qu'ils aient jeté vos bébés mâles dans le Nil, hein, sauf, Ayulachem, Arsania, Beshatatrak. C'est-à-dire, finalement, on a reçu, ils nous ont accepté, c'était la famine. D'accord? Yaakov est descendu, c'était la famine. Et donc, ils nous ont hébergés et ils nous ont donné à manger. Et donc, il n'y a pas de compensation. Ce n'est pas, disons, les bienfaits qu'ils nous ont eus à notre égard, qu'ils ont manifestés, bon, ben, sont annulés par, par la souffrance qu'ils nous ont imposée par la suite. Chez Hachem, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une récompense pour la chose qui mérite une récompense. Une sanction pour les choses qui méritent des sanctions. Et donc, les Bnei Israël ont un mérite. On a habité chez eux. Alors, bien entendu que ils auraient dû être traités comme Ammon et Moab. C'est-à-dire, on vous accepte jamais comme on n'accepte pas les hommes de Ammon et Moab. Même s'ils veulent se convertir, on ne les accepte pas. On aurait dû aussi ne pas accepter les Mitzrim à cause du mal qu'ils nous ont fait. Mais le Ribbono shel Olam, il a vu que, en tout cas, il y a une certaine sensibilité. Il dit, c'est un peu. Il met entre guillemets, ils ont un petit cœur, un peu de cœur juif, quoi, quand même, puisqu'ils nous ont accepté, ont donné l'hospitalité. Même s'ils nous ont occupé, ils nous ont utilisés, ils nous ont fait travailler, etc. Mais sauf finalement, ils nous ont donné à manger. Et donc, nous avons une obligation de manifester la reconnaissance. Il y a des gens qui pensent qui reconnaissent pas ça et qui disent que le fait qu'il nous ait ensuite tellement opprimés, que ça annule. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que on peut même pas dire qu'ils étaient quasiment humainement obligés de nous accueillir parce que c'était la famine partout autour. Non. Et on voit très bien que il y a d'autres peuples qui ne l'ont pas fait. Et Ammon et Moab, ils ne nous ont pas écrasés. Ils ont simplement refusé de nous donner le minimum qu'on donne. Semble-t-il, quand on rencontre quelqu'un dans le désert, on lui donne de l'eau et du pain, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ça suffit pour disqualifier complètement Ammon et Moab. Définitivement, les hommes de Ammon et Moab ne pourront jamais se convertir. Mais la Torah, elle pense que d'avoir été étrangers chez eux, même si ensuite ils nous ont fait payer très cher tout ça, malgré tout, il y a une dette. Alors peut-être c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a retardé un peu les coups portés à l'Égypte, le coup définitif porté à l'Égypte, qui est la Géoula. La Géoula, c'est une Géoula pour nous, mais c'est un coup magnifique, enfin, terrible contre l'Égypte. Nous, on ne connaît pas les cheshbonot d'Hachem. On ne sait pas pourquoi Hachem fait certaines choses. Il y a toujours les grandes questions de Rachab et Tovlo. Pourquoi celui-là, tout va bien pour lui? Et peut-être que c'est un rachat et tout va bien pour lui, peut-être que c'est Shikabel Sraro, ben on l'a masé. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu veut que, effectivement, tout le monde fait de temps en temps de bonnes choses, même sans le vouloir, on fait des mitzvot, en fait. Elles ne valent pas grand-chose, mais elles sont quand même là. Donc elles vont générer un salaire, elles vont générer une récompense. Et donc, des fois, quand quelqu'un est vraiment un rachat, alors Hachem va lui payer la récompense dans ce monde-ci. C'est-à-dire ce qui est sans commune mesure avec le paiement d'une récompense dans Olam Haba. Il y a encore une autre raison pour laquelle on pourrait repousser, retarder la Géoula. Peut-être que Hachem voulait endurcir complètement le cœur de Paro. Comme il dit, dans le passouk, on dit que Hachem dit, Gleman, je fais ça pour multiplier mes moftim b'Eretz Mitzrayim, pour multiplier les miracles, la manifestation de ma toute-puissance en Égypte. Et puis, deuxièmement, c'est parce que Hachem veut, et c'est la mitzvah pour nous, que le man te s'appelle pour que tu racontes. Bincha, alalti, tu leur racontes à tes enfants, tes petits-enfants, comme je me suis moqué de l'Égypte, comme je les ai montré aux Égyptiens qu'ils étaient rien du tout. Et donc, plus Hachem frappe l'Égypte, plus nous aurons à raconter. Et donc, et dans le monde à venir, c'est cette souffrance, elle est à terme, c'est bon pour les Bnei Israël, malgré tout. Et bien qu'effectivement, ils souffrent énormément, qu'ils payent un très lourd tribut, etc. Mais en fait, ça va dans Olam Haba, ils auront plus de récompenses en fait. En vérité, les Bnei Israël doivent aussi savoir que s'ils ne font pas, s'ils n'obéissent pas aux mitzvot d'Hachem, alors ils vont recevoir des makot comme les makot qu'Hachem a infligées aux Égyptiens. C'est marqué dans Parchat Ki Tavo, avec la lotte, c'est marqué. Ve'eshiv becha et kol matvei Mitzrayim, asher yagarta mipnehem. C'est-à-dire, vous allez à Temirim, mais à Makot, vous avez peur des Makot que j'ai infligées aux Égyptiens. Donc, Ici, je donne quelques exemples simplement de raisons pour lesquelles on peut retarder la Géoula, mais il y en a bien d'autres et aussi d'autres auxquelles nous ne pensons pas, nous ne pouvons peut-être pas penser. Je lis dans la Tfila, dans la Amida, on dit Ata Gibor. Le Olam Hashem. Tu es puissant, fort, le Olam, pour toujours, Hashem. Alors, le mot le Olam, c'est-à-dire toujours, en permanence, ça veut dire que même lorsque nous avons l'impression qu'il y a une espèce de faiblesse dans la façon dont Hachem gouverne le monde, on doit savoir que ce que nous voyons là, quelle que soit la façon que nous avons de l'interpréter, c'est l'expression de la Gvoura d'Hachem. Hachem est Gibor le Olam. Il n'y a pas de faiblesse. Donc quand nous, on voit quelque chose qui nous apparaît comme de la faiblesse, en vérité, c'est une autre manifestation de la Gvoura d'Hachem. Parce que Gibor, le Gibor, c'est pas quelqu'un qui ne laisse rien passer. Les Chazal disent à Gibor, et c'est au Gibor, à Kobeshet c'est celui qui maîtrise son Yetzer. Il maîtrise ses pulsions, il maîtrise son Yetzer. Parfois, le roi veut sanctionner, il veut frapper son fils, parce que son fils s'est mal conduit. Mais il va demander à quelqu'un d'autre de le faire. Il dit, c'est mieux que ce soit toi qui le punisses. Moi, je peux pas. Je peux pas le faire moi-même. Il a besoin d'être puni, mais moi, je peux pas le faire. C'est une manifestation de la Gvoura. C'est une Gvoura de le sanctionner. Ah, il fait faire par d'autres, ça c'est une autre affaire. La Gvoura, c'est il fait faire. Il ne veut pas le faire par lui-même. Peut-être ça lui est difficile ou bien il pense que ce serait trop pour l'enfant d'être frappé par son père. Il mérite d'être frappé, mais frappé par son père, ça a une autre dimension. Et des fois, il peut penser que quelqu'un d'autre va punir trop fortement. Et le roi, là, il va intervenir pour l'empêcher de punir si fortement. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas parce qu'il est trop faible pour le faire. C'est ça, c'est toujours sa gvoura. La gvoura consiste ici à empêcher l'autre d'exagérer. Donc quand nous disons Ata Gibor le Olam Hashem, ça veut dire, il n'y a aucun moment où le maître du monde est faible. Il est Gibor en permanence. Et si on en vient à poser la question, Aye Gvurotav, c'est le Chazal qui ramène, que les Nevi'im m'ont demandé, mais où est la Gvura d'Hachem? Kasher umot ha'olam sholtim al Israël. Elle est où la Gvoura d'Hachem alors que nous sommes en exil? Nous sommes soumis, on est dépendant des goyim. Alors vous savez que là-bas, la Gemara, elle répond. Les Nevim, ils avaient commencé à supprimer. Ils disaient plus dans la Hamida, Akel, Agadol, Agibor, Véanora. Ils disaient, on ne peut pas dire une chose pareille qui, on voit bien que c'est pas comme ça. Jusqu'à ce qu'on vienne leur dire, pas du tout. Le clan d'Israël, il est comme un agneau qui est entouré par une meute de loups. 70 loups autour de lui. Qui lui bouffe la laine sur le dos, mais ils peuvent pas le tuer. L'autre exemple, c'est le chasseur qui a il a un oiseau dans la main. S'il ferme la main, l'oiseau il meurt, mais il peut pas fermer la main. Et c'est ça la Gvoura. Une Gvoura dans la qui frappe celui qui croit qu'il est guibord, et finalement il est allé jusque là. Après, stop. Et ça veut dire que le clan d'Israël, jusque-là, le clan d'Israël mérite. Jusque-là, mais pas plus. Et donc Hachem dit à Moshe, je t'ai dit d'aller chez Paro, de lui dire. Shlach et ami, envoie mon peuple. Et maintenant, tu me demandes, c'est une bonne question, que comment est-ce que ma parole s'est-elle réalisée? Si je suis Gibor, comment ça se fait que Paro me dit non? Au contraire, ça aggrave, il aggrave la souffrance d'Ebné Israël. En vérité, c'est une grande tova qu'Hachem a faite. Parce que maintenant, je vais pouvoir raccourcir le temps de leur esclavage, de telle sorte que je vais pouvoir, au contraire, rapprocher la Géoula. Le problème, et bien sûr on a déjà dit dans d'autres situations, on peut expliquer autrement, mais il y a un problème. Dans la vision d'Abraham Avinu à Brit Ben Abtarim, qui est la vision dans laquelle Hachem lui a fait ça, il m'a dit que ses descendants seraient esclaves dans un pays qui n'est pas le leur, qui allait leur faire souffrir, etc. Et ça va durer 400 ans. Et là, nous, on va sortir au bout de 210 ans. Et comment est-ce qu'Hachem peut nous sortir à 210, puisque c'est, il a dit lui-même, et ça va durer 400. Alors, les 400 ans, c'est 400 ans de l'exil tel qu'Hachem l'avait pensé pour les Bnei Israël. Mais les Égyptiens, c'est pour ça ils vont être sanctionnés, ils en ont fait plus que qu'ils devaient faire. Et donc, c'est cette gravité exceptionnelle, cette dureté exceptionnelle qu'ils ont infligée, qu'ils ont pratiqué à l'égard des Bnei Israël, ça fait que il y a des années qui comptent double, triple, quadruple, etc. Qui fait que dans ces 210 ans, on va pouvoir, grâce à l'inhumanité littéralement du traitement des Bnei Israël en Égypte, on va pouvoir dire que ces 210 ans, ils valent 400. Donc Hachem dit, je peux vous sortir maintenant. Donc à la limite, même ce coup de pouce pour augmenter la souffrance, c'est un moyen de faire en sorte que, au lieu de d'avoir encore, je sais pas, 50 ans de plus, en tout il monte 190 ans, mais à ce moment-là, il reste encore 50 ans. Hachem a fait une souffrance terrible où ces 50 ans Ça peut être une dizaine de jours, je ne sais pas, ou quelques jours. Nous, on doit être ma'amine, ça fait partie de notre émouna. Que même si on a une émouna, que HaKadosh Baruch Hu, il est éternel, il est fiable, il va accomplir toutes ses promesses, qu'il va effectivement affaiblir de façon définitive Paro, etc. Nous, notre émouna, c'est que HaKadosh Baruch Hu, il va faire tout ça, même si on ne le voit pas. Il va faire tout ça. Le niveau d'émouna, Bémet, ou ce niveau d'émouna-là, il est difficile à atteindre, très difficile à atteindre. Parce que comme dit Chazal, ils disent Bozneinu shamanu, avotenu sipru. Nous avons entendu, nos ancêtres nous ont raconté. Et la Gemara elle ajoute Shafal piken anu beneinu loreinu. Tout ça c'est très bien, mais nous on l'a pas vu. On a toujours entendu effectivement la grandeur d'Hachem, etc. Mais on n'a jamais rien vu. On n'a pas vu de nos propres yeux. Tu peux parler de dire la grandeur, etc. Bon, mais ça fera toujours qu'on ne l'a jamais vu. Mais justement, la réalité que la Emouna, c'est ça. Parce que quand on l'aura vu, c'est plus de la Emouna. On n'a plus besoin d'Emouna quand on l'aura vu. Donc là, toute la mitzvah d'Emouna, c'est de faire confiance. Et toute l'idée de faire confiance, c'est quand on n'est pas sûr. Quand je suis sûr, je ne fais pas confiance. Je sais que c'est comme ça. Pour ça que c'est un peu difficile. Il faut réfléchir à ce que ça veut dire. Le Rambam, il a remplacé, il dit les deux, mais ce par quoi il commence, il dit qu'on a mitzvah, l'éda, de connaître Hachem. Mais si on le connaît, c'est plus de la Emouna. Or, il apprend ça de Anochi Hashem Elokecha. Mais, Asher Hotzeticha, c'est vrai que quand Hashem parle au Bnei Israël, dans les Asata Dibrot, il leur dit, je suis Hashem, qui est sorti d'Égypte, ceux qui entendent ça, ils l'ont vu. Eux, ils sont sortis d'Égypte. Par la suite, après les 40 ans de désert, où tous les hommes qui avaient 20 ans à la sortie d'Égypte vont mourir, à l'exception de Yoshua et Caleb, c'est-à-dire, si on imagine le soir du Seder, la première année, il n'y avait pas, mais bon, si on imagine la première année en Eretz Israël, il n'y a aucun homme à table qui peut dire j'y étais adulte. J'étais peut-être enfant, mais adulte, j'y étais pas. Personne. Donc c'est tout de suite un récit. Et nous, on est un peuple du récit. On vit sur un récit. Dans la Torah, même Moshe Rabbeinu, Hachem lui a fait le récit de Bereshit. Mon cher Abel n'y était pas. Tout le reste de la Torah, il y était. Mais Sefer Bereshit, à la limite, même mon cher Abel, il a dû être ma'amine. Donc, la Emouna est fondamentale, c'est-à-dire que on n'a pas vu. C'est vrai qu'on n'a pas vu. Parce que je ne sais pas. En fait, la réalité, c'est que de ce fameux Seder que je suis en train de décrire, où il n'y avait personne qui l'a vu, qui l'a vécu adulte, il y avait les femmes. Les femmes, elles ne sont pas mortes pendant les 40 ans. Le peuple juif, il était composé de beaucoup de almanach, beaucoup de veuves. Bon, toutes les veuves de ces hommes qui sont morts, elles sont pas toutes mortes. Il y a celles qui sont mortes de vieillesse, etc. Mais les autres, elles sont pas mortes. La condamnation, elle concernait que les hommes. Parce que la condamnation à mort, elle venait du veau d'or. Ils l'ont reçue parce que le sursis est tombé. Les explorateurs, mais les explorateurs, ça n'a pas été condamné à mort, mais c'est le sursis du veau d'or qui est tombé. Et les femmes, elles n'ont pas participé au veau d'or. Donc elles ne sont pas mortes pendant ces 40 ans. Alors, je ne sais pas, est-ce que ce sont les femmes qui ont raconté le CDR? Je ne sais pas. Elles pouvaient dire, nous, on y était. Et les femmes, c'était les femmes qui étaient en Égypte et qui en sont sorties, ce sont les Tsatkaniot qui ont fabriqué la Géoula. Les hommes, ils avaient déjà baissé les bras. En vérité, comme David dit, que on pourrait expliquer un peu différemment. On pourrait dire comme ça. Revenons à l'épisode du Sné, à l'épisode du buisson ardent. Moshe Rabbeinu, il voit ce buisson qui brûle mais se consume pas. À ce moment-là, le Ribbono shel Olam se dévoile à Moshe. Il interpelle Moshe, il l'appelle, il lui dit enlève tes chaussures, avance, etc. Ce pasouk dit Vayomer Hashem, c'est-à-dire le nom divin qui fait référence à la Rachamim. Il dit, Raor Haïti et Oni Ami, Asher de Mitzrayim, j'ai vu la pauvreté, j'ai vu les souffrances de mon peuple qui est en Égypte, et Tsakatam Shamati, j'ai entendu leurs cris, leurs plaintes, Upne Noksav, à cause de ce que leur faisaient les capots, etc. Yadati et Machovav. Je sais très bien tout ça. En d'autres termes, Hachem parle, quand il parle à ce moment-là, ce sont des paroles de Rachamim. C'est-à-dire, c'est des paroles qui sont dites comme si le clan d'Israël ne méritait pas du tout ce qui lui arrive. Mais c'est aussi les Bnei Israël n'avaient aucun mérite. Et donc c'est du rachamim, c'est-à-dire on donne sans que ça correspond au din. C'est marqué dans Parchat Ekeb, c'est écrit Al tomar bilbavcha, ne dis pas dans ton cœur que Betzidkati evi'ani Hashem l'areshet et haaretz hazot. Ne dis pas c'est grâce à mon tzedek, à ma tzidkout, qu'Hashem m'a donné cette terre. Mais sache, Sirach, Leman Hakim est un davar Asher Nishba Abraham Yitzhak Yaakov. Ani Hachem. C'est-à-dire, c'est uniquement parce que je l'ai promis au Avot que je te donne la terre. Et il redit Ani Hachem. C'est-à-dire, je vais traduire comme ça, Ani Mouchan Lerachem Alehem ou Lotsiyam. Je suis prêt à les faire sortir d'Égypte, d'avoir par tendresse à leur égard. Tia Siba Machetille, quelle que soit la raison, et vraisemblablement, c'est parce qu'Hachem voulait effectivement, comme on a dit, accomplir la promesse qu'il a faite au Havot. Mais par rapport aux Bnei Israël qui étaient en Égypte, ils n'ont aucun mérite. Comme on l'a déjà dit toutes les années avant Pessah, qu'ils n'avaient tellement pas de mérite qu'Hachem a dû leur donner deux mitzvot pour qu'ils aient un mérite. La mitzvah de Korban Pessah et la mitzvah de Dam Mila, de refaire la Mila qu'ils avaient arrêté de faire en Égypte. Deux mitzvot avec le sang. Pour qu'il mérite un peu d'être délivré. Il dit, j'ai reconnu vos ancêtres, c'était des Anshéhémètes, c'était des gens vrais, authentiques. Et c'est pour ça que ils reçoivent ma tendresse, en fait. C'est une tendresse qui est justifiée d'une certaine manière par les avot, par la conduite des avot. Tout ce que le Moshe a dit à Moshe à ce moment au buisson ardent, ça tourne autour de ce point-là. Les Bnei Israël ne sont pas sortis d'Égypte grâce à leur mérite. Ils n'ont pas de scout pour sortir. Et je suis donc obligé, d'une certaine manière, pour pouvoir les faire sortir maintenant, je suis obligé d'aggraver la situation, les faire souffrir plus encore, pour pouvoir les sortir maintenant. C'est du rachamim au sein du din. Un peu ce qu'on dit à Rosh Hashanah à Kippour, encore que on dit le foel rachamav badin, un des piyutim de Rosh Hashanah à Kippour. C'est le Foel Rachamav Badin. C'est-à-dire, Hachem fait fonctionner son Rachamim au milieu du Din. Le Rachamim, il n'a absolument aucune place au milieu du Din. Le Din, c'est la rigueur. Tu as exactement ce que tu as gagné. Pas plus, pas moins. Et le rachamim, c'est justement de donner alors que tu n'y as pas droit. Et donc, Akadosh Baruch Hu a inventé quelque chose, que ce soit la sonnerie du shofar ou la tshuva, enfin les deux, qui fait que, bien le mérite des avot, ici, qu'au milieu du din, Hachem fait fleurir quelque part un rachamim qui devient. Voilà, le din s'exprime à travers on est toujours dans le din. Mais en fait, ce din-là, c'est comme s'il était récupéré par le rachamim. Le Rahamim utilise le dîn pour pouvoir s'appliquer. Le Rahamim va utiliser le dîn, c'est-à-dire le fait que les Bnei Israël ils prennent une dose très forte de souffrance qui correspond à quelque chose. D'accord? C'est juste que Hachem aurait très bien pu les sanctionner et étendre la sanction sur 190 ans. Et si on dit qu'ils sortent maintenant, ça veut dire qu'encore beaucoup, cette sanction-là, il l'a ramassée en quelques jours. Enfin, en fait, ça va durer un an en tout, un peu plus qu'un an, sur un an. Il y a d'autres explications qui disent qu'on est sorti prématurément et que les galuyotes ultérieures sont justement des façons de payer les 190 ans qu'on n'a pas vécu selon l'esclavage égyptien. Et ça donne une idée de ce qu'était l'esclavage égyptien, si ce qu'on a depuis plus de 2000 ans, quoi. C'est simplement une espèce de dilution de ce qu'on mérite. Et que c'était ou bien on fait comme ça, on va contracter tout ça en des souffrances impossibles à imaginer sur un laps de temps très court, et on sort avec 210, c'est terminé. C'est comme si on a vécu les 400 ans. Ou bien non, non. En fait, cette histoire-là, c'est une des raisons pour lesquelles Moshe ne voulait pas les sortir les Bnei Israël. Quand Hachem lui a dit, tu vas sortir les Bnei Israël de Mitzrayim, Moshe Rabbeinu lui a dit non. Pourquoi elle a dit non? Parce qu'il a demandé à Hachem, en particulier, il m'a demandé sous quel nom est-ce que je vais leur parler? Ils vont me demander qui t'envoiera, qu'est-ce que je leur dis? Et Hachem lui a dit, tu diras, Eke Asher Eke, je serai qui je serai, m'a envoyé. Le problème, de la même manière que le tétragramme, qui est le grand nom de. Mais que on lit aussi dans ce tétragramme le Rahamim. Alors c'est un peu paradoxal, parce que si tu lis le Rahamim, donc tu lis une certaine façon de gouverner le monde, alors que le tétragramme, c'est toute la gouvernance. Bon, c'est un grand sujet. Alors, ici aussi, Eke Asher Eke, Hachem lui a dit, ça veut dire, dis-leur, que je serai avec eux dans les exils ultérieurs, comme je serai avec eux dans cet exil-là. Alors, Moshe Rabbeinu a dit, non, non, ça se vend pas, ça. Je peux pas vendre ça. Hachem lui a dit, ok, alors tu leur diras seulement Eke, je serai avec vous. Ce nom divin-là, qui est le nom dont Hachem a dit, c'est mon nom. Quand on lui demande, Moshe lui demande, quel est ton nom? Il dit, Eke Asher Eke. On ne parle plus jamais dans tout le Tanakh de ce nom-là. Jamais. Alors, sauf si quelque chose m'a échappé, mais je crois que c'est jamais. Comment se fait-il? Puisque c'est ça le nom. Comment se fait-il que ce nom-là, on ne l'utilise jamais? On utilise ce tétragramme-là qui a des formes approximatives qui sont aussi des noms de divinités cananéennes, etc. Les trois premières lettres. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est ça la divinité en question, mais ce nom-là, Et donc, mon cher Rabbeinu a dit à Hachem, non, je ne veux pas. Je ne veux pas des fameux exils ultérieurs. Au lieu de faire un miracle maintenant, de faire sortir des Bnei Israël qui ne méritent pas de sortir, tu vas faire un miracle gigantesque. Tu vas les sortir d'Égypte, on ne sait pas comment, n'est-ce pas? On a déjà dit souvent, la Haggadah de Pessah, elle raconte la sortie d'Égypte, mais elle ne nous dit jamais comment on est sorti. La Haggadah, elle parle de ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a eu après. Mais il n'y a pas de zoom sur la sortie elle-même. La seule chose qui est dite, c'est Lo-Al-Yedei, Malach, Saraf, Shliach, etc. Et là, HaKadosh Baruch Hu bichvodo be'atzmo. Ce qui veut dire qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien, on ne sait pas. On n'a aucune représentation. On raconte que, bon, par la suite, cette sortie-là, on n'en sait rien. Après le passage de la mer, on nous en dit un peu plus. Et là non plus, ce n'est pas plus clair. Donc, Moshe Rabbeinu ne voulait pas. Il ne voulait pas. Et le problème, c'est Hachem n'a pas cédé. Et donc, finalement, après une semaine, c'est Moshe qui a cédé. Il est allé, finalement. Ça lui a coûté très cher, cette résistance, comme on a dit au début. Mais finalement, Hachem lui a imposé. Et donc, a priori, Moshe, il ne voulait pas ça. Et si Hachem a dit, ça se passera comme ça quand même, ça veut dire que c'est fondamental. Est-ce que ça veut dire que, effectivement, pour les sortir à 210, il a fallu augmenter la souffrance, etc. Mais avec tout ça, on n'a encore pas payé. Ça a permis de sortir, mais ça n'a pas payé, ça n'a pas permis d'annuler les exils ultérieurs. Alors peut-être que dans les exils ultérieurs, il n'y a pas seulement ça. Il n'y a pas seulement les 190 ans qui restaient. Peut-être qu'il y a d'autres Heshbonot d'Hachem. Il y a un Heshbon dont on a parlé déjà au Shiur de Midrash. Certains disent que le galout s'est fait pour produire des guérims. Il faut produire des guérims. Pourquoi il faut produire des guérims? Alors, on peut dire deux choses. On peut dire plus que deux, mais souvent, je dirais deux choses. D'une part, quand Avraham Avinu a proposé de faire le travail qui en vérité aurait dû être fait par l'humanité tout entière, Adam Harishon, il a été mis dans le Gan Eden, le Ovdo ou le Shamro, d'accord? Il y avait à faire et à ne pas faire, et lui il savait ce qu'il fallait faire, il ne l'a pas fait, il a échoué avec cette histoire du fruit qu'il ne fallait pas manger. Et donc le travail devait être fait par l'humanité descendant de Adam. Et cette humanité-là, elle a échoué à deux reprises. 10 générations après Adam, c'est le Maboul. Hachem redonne une chance, on recommence un monde avec Noé et famille. Et 10 générations après, c'est la tour de Babel. Un deuxième échec. Et donc, à ce moment-là, Hachem, son projet, il est à l'eau, quoi. Et donc, on est dans une situation dont parle toujours le Midrash de Akash Bokhu, Bana Olamot Virchivan, Bana Olamot Virchivan. Il a créé des mondes et il les a détruits, créé, détruit, créé, détruit, jusqu'à ce qu'il arrive à ce monde-ci. Et celui-ci, il l'a créé et il l'a quasi détruit, mais pas complètement. Maboul, c'est quasi, et pas. Et à ce moment-là, il y a Abraham qui dit, ben, moi, je vais faire le job. Et bien sûr qu'Abraham ne fait pas le job que pour ses descendants. Je n'avais pas intéressé à qu'il y ait un petit peuple minuscule qui le reconnaisse. Il va être reconnu par tout le monde, comme on dit, nous disons dans la tfila de Rosh Hashanah et Kippour, V'yassou kulam aguda achat la'asot chesronecha b'levav shalem, kulam, tout le monde. Et les goyim aussi. Mais comment la démarche d'Abraham concerne les goyim? Ah. Le clan d'Israël, il est tout seul, comme dit Bilam. On est tout seul. Alors justement, il faut d'une certaine manière faire participer les goyim. Donc comment les goyim vont participer? En produisant des guérim. Quelque part, il y a des gens qui sont issus des goyim et qui entrent dans le clan d'Israël. Donc, dans le clan d'Israël, il y a des traces des goyim. Alors, on peut aussi dire que la raison pour laquelle on est intéressé à ce qu'il y ait des goyim, si on pense, il y a une théorie qui. Théorie des. Les étincelles. Il dit que au moment de la création, il y avait la lumière, l'énergie du monde, si vous voulez, elle devait être dans des kélim. Et les kélim n'ont pas tenu, ils n'ont pas réussi, résisté à l'énergie. Ça a éclaté, et ça a envoyé des étincelles un peu partout dans le monde. Et ces étincelles sont tombées chez toutes sortes de peuples. Elles sont là, mais elles sont enfoncées dans la boue de la culture de chacun de ces peuples, en quelque sorte. Et les Bnei Israël ne sont pas capables d'aller les chercher, parce qu'ils n'ont pas les kélim pour résister. S'ils vont se confronter avec très profondément avec cette boue-là, ils vont être emportés. Enfin, qui peut aller les chercher alors? Des gens qui sont immunisés contre ça, des goyim eux-mêmes. Donc il y a certains goyim qui vont aller chercher ces étincelles et s'ils se convertissent, ils vont amener les étincelles à l'intérieur du clan d'Israël comme il faut. Il faut que Hachem, il faut que toutes les étincelles se retrouvent. Mais comment ces gens-là, ils vont connaître les Israël? Pourquoi ils vont pas se convertir s'ils connaissent personne? Et donc, le galout, c'est les mettre ces gens-là en collision avec des Israël qui sont en galout dans ces pays ou dans ces régions. Et ces gens-là, ils peuvent éventuellement se convertir. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'on dit le galout, il est là pour produire des convertis. Alors, c'est ou bien simplement pour que les goyim soient partie prenante, quelque sorte, à ce travail de reconnaissance de la royauté d'Hachem dans le monde, ou alors, et aussi, peut-être, aussi les deux, ramener ces fameuses étincelles. C'est pour ça que dans le passouk, c'est marqué, quand les Bnei Israël sont sortis de Mitzrayim, c'est marqué, Vaynatzlo et Mitzrayim. Rashi explique, Rahal explique, que quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont laissé l'Égypte comme une nasse sans aucun poisson. On a pris tous les poissons. C'est pour ça que c'est marqué, on n'a pas le droit de retourner en Égypte, parce qu'on n'a rien à y faire. C'est-à-dire toute la composante intéressante de l'Égypte, intéressante au sens où c'est intéressant de les avoir, reconnaître les gens qui viennent de là-bas, et même mon cher Avenu, il vient aussi de là-bas. Mon cher Avenu, il est prince héritier d'Égypte. Donc, quelque part, il a été personnalité, il connaît toute la chorma égyptienne. Par définition, il était obligé de l'apprendre. Et donc, quelque part, mais peut-être ça suffit pas qu'il y ait Moshe. Il faut qu'il y ait d'autres gens, peut-être. D'autres gens qui viennent d'autres pays, etc. Mais de l'Égypte, on n'a plus rien à chercher. Donc, il faut plus aller là-bas. Il n'y a rien à chercher là-bas. On n'a pas le droit de s'installer, sauf cas de force majeure, comme c'était le cas pour le Rambam. Il s'est bien installé à Fostin, au Caire, parce qu'il n'a pas trouvé où aller ailleurs. Il voulait aller en Eretz. Il est arrivé à Akko, on lui a dit, tu restes pas ici, on n'a pas de quoi manger, on veut pas une bouche de plus à nourrir. Il est descendu en Égypte. Donc on a affaire. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tu dis que j'ai pas accompli ma parole, ce que je t'avais dit. Je t'avais dit que j'aurais rachamim d'Ebné Israël et que je vais les sortir et j'ai pas accompli ma parole. Tu dis ça en tout cas. Et maintenant, tu dis que je suis Noeg en tant que Elohim. Milatadine. On lui dit Ani Hachem, comme on a vu, il lui dit, je suis Hachem. Loa siti et kolze, rak mishum aftacha shel Ani Hachem. C'est parce que je suis Hachem, c'est-à-dire celui qui réalise les promesses. Donc c'est la réalisation de la promesse que j'ai faite. Tout ce que j'ai fait là, ça aussi, même ce que tu comprends pas, tout ça, c'est dans le processus de réalisation des promesses. C'est le seul moyen par lequel je peux exprimer ma rachamim. Comme vous savez, dans les 13 mesures de Rachamim, l'Hachem, Hachem, qui est le Rachum Hanoun, mes premiers mots, c'est Hachem, qui est le tétragramme donc de Rachamim. C'est ça qu'on dit au tout début des 13 mesures de tendresse de Rachamim. Tout vient de cette mida de Rachamim. Hachem dit à Moshe, ce que tu as vu que Paro a servi plus fortement les Bnei Israël à la suite de ce que je t'ai envoyé, sache que je t'ai envoyé pour que tu puisses entraîner pour les Bnei Israël une situation, par ton intervention, tu crées une situation dans laquelle je vais pouvoir, comme on a vu, je vais utiliser mon rachamim. Je vais pouvoir utiliser mon rachamim. Pourquoi? Parce que, certaines fois, Akadosh Baruch Hu veut être rachaman. Mais l'homme qui devrait bénéficier de ce rachamim, il ne mérite pas ce rachamim. Et donc le Rémy est obligé de payer, qu'il faut qu'il donne quelque chose pour avoir le droit de faire fonctionner le rachamim, même si le récepteur n'est pas adéquat pour recevoir le rachamim. Il dit, vous imaginez que quelqu'un doive, je sais pas, il doit subir une opération. C'est condition sine qua non pour guérir. Et donc, il va avoir besoin de l'amida de Rachamim. Mais peut-être que pour se qualifier pour la recevoir, cette amida de Rachamim, il faut qu'il paye quelque chose. Et peut-être il va payer avec une certaine souffrance, une certaine douleur autour de l'opération. Une espèce de paiement pour pouvoir faire cette opération qui est en vérité du rachamim. Hachem veut nous guérir, mais il faut qu'il mette du sien en quelque sorte. Et en fait, c'est parce que les Bnei Israël n'avaient pas suffisamment confiance en Hachem, ni en Moshe au départ. Et donc ils ne croyaient pas à la Géoula, ils n'avaient pas confiance. Et donc ils ont dû souffrir plus, en quelque sorte, pour payer en quelque sorte. C'est-à-dire, il a fallu raccourcir le délai pour la Géoula. Et pour le raccourcir, il fallait qu'il souffre. Comme ça qu'il décrit les psukim du début, là. J'ai jamais entendu ce genre d'explication. Je l'ai entendu une ou deux fois, David, mais j'avais été fortement impressionné, mais je ne m'étais pas rendu compte de combien c'était différent. Parce que bon, c'était oral bon, je n'ai pas fait suffisamment attention. J'ai vu que c'était quelque chose de tout à fait exceptionnel, mais je n'ai pas compris combien c'est différent. Énormément, très très différent, faut dire. Et il ramène pas des rishonim ou comme ça, parce que les rishonim, tout le monde les connaît, dans tous les sfarim, ils sont écrits. Il faut savoir son histoire, et lui, il est né en Russie, quand Moshe était encore en Russie, et c'était l'époque où il y avait beaucoup de difficultés parce que les Russes, les bolcheviks là-bas, ils voulaient absolument que tous les enfants soient éduqués à la rue, enfin, soviétique, quoi. Et alors, Moshe Feinstein, il a décidé qu'il n'apprendrait pas à lire à son enfant. Et comme ça, quand les Russes voulaient le mobiliser, non, il est un peu retardé, on n'arrive pas à le faire lire, il sait pas lire. Il savait pas lire. Jusqu'à 9 ans, il savait pas lire. Mais il connaissait des Massertot par cœur. Son père lui a appris la Gemara par cœur. Il se connaissait par cœur. Mais ça, les goyim, il ne savait pas. Il ne savait pas lire. Il ne savait vraiment pas lire. Il a appris à lire plus tard. Son père, il ne l'a pas appris. Il lui dit, tu diras que tu sais pas lire parce que il avait peur qu'il se coupe, quoi. Il était mal pris de ne pas lui apprendre à lire pour le sauver de l'éducation soviétique. Voilà. Shabbat shalom.
Merci.